Comment devenir un moine ou une nonne bouddhiste? Dans plusieurs grandes traditions religieuses du monde, le moine ou la nonne est considéré comme la personnification de l'idéal spirituel. C'est celui ou celle qui a renoncé à tous les attachements matériels et qui consacre sa vie à de nobles quêtes. Bien que le bouddhisme reconnaisse les mérites de la pratique en tant que laïque, il attache la plus grande signification aux actes qui consistent à se raser le crâne, prononcer les vœux monastiques complets et entrer dans une communauté monastique. Ceux qui se sentent attirés par les pratiques monastiques le sont pour les mêmes raisons qu'ils le sont par le bouddhisme en premier lieu. C'est le désir d'éliminer la souffrance, de faire le bien des autres êtres et d'obtenir la clarté et la paix suprême. Ajoutez à ce mélange une certaine répugnance, voire une franche aversion, pour la vie matérielle conventionnelle et vous aurez une bonne idée de ce qui motive ceux qui deviennent moines ou nonnes. Le premier instructeur de zen de Stéphane avait même l'habitude de dire que les monastères sont des endroits pour les désespérés. Bien sûr, dans certains pays d'Asie, les hommes et les femmes deviennent moines et nonnes pour d'autres raisons également, comme échapper aux obligations matérielles, exaucer les souhaits de leurs parents, etc. N'oubliez pas. En japonais, le mot qui désigne l'ordination monastique signifie littéralement « quitter la maison », peut-être parce que de nombreux moines et de nombreuses nonnes rejoignaient traditionnellement le cloître alors qu'ils étaient très jeunes et venaient directement de la maison de leurs parents. Dans la tradition Theravada, le terme équivalent signifie « sortir », mais le terme « quitter la maison » a un sens plus profond, celui de laisser derrière soi le confort et l'intimité de la famille et des amis pour entrer dans un monde entièrement nouveau dans lequel les anciennes règles ne s'appliquent plus. On exprime vers l'extérieur son renoncement en se rasant la tête. Les cheveux sont considérés comme une marque de beauté et de fierté personnelle. En abandonnant ses vêtements préférés, de même que les biens que l'on apprécie le plus. Comparez ces actes au propre renoncement de Shakyamuni que nous décrivons au chapitre 3. En essence, on se dépouille des signes de son individualité et on fusionne avec le collectif monastique, dans lequel tout le monde porte la même robe, arbore la même coupe de cheveux, minimale pour le moins, dort sur la même natte fine et mange le même riz et les mêmes légumes jour après jour. À l'époque du Bouddha, et de nos jours encore dans les traditions qui continuent d'adhérer au code monastique complet, le Vinaya, les moines et les nonnes n'étaient pas autorisés à utiliser ou à solliciter de l'argent, et ils n'étaient autorisés à posséder que quelques effets personnels élémentaires, à savoir plusieurs robes, un bol, un rasoir et un parasol pour se protéger du soleil. Ils faisaient vœu de célibat, ne mangeaient qu'avant midi, et recevaient leur nourriture de laïcs, soit durant les tournées d'aumônes, soit par les offrandes que ceux-ci apportaient au monastère. Le but de ces règles n'était ni de causer de la privation, ni de causer de la souffrance. En fait, l'approche du Bouddha était appelée « sentier du milieu », entre l'ascétisme, qui implique de très sévères restrictions, et le matérialisme. Le but était donc plutôt de simplifier la vie du moine ou de la nonne, afin qu'il ou elle puisse mieux se consacrer à la pratique et à l'enseignement. Ces règles que la tradition Theravada de l'Asie du Sud-Est observe encore ont été quelque peu adaptées dans d'autres traditions telles que le Zen et le Vajrayana. Au Japon, patrie de la tradition Zen, par exemple, le prêtre qui est formé pendant une période de quelques mois ou de quelques années avant de retourner à son temple d'origine pour se marier, fonder un foyer et servir la communauté des laïcs, a en grande partie remplacé le moine. Dans le bouddhisme tibétain, certaines lignées insistent sur la nécessité de la vie monastique complète, bien qu'elles ne soient pas aussi rigoureuses dans leur interprétation du code monastique que ne le sont leurs équivalents thermidores. Alors que d'autres encouragent les chercheurs sincères à combiner la vie de personnes mariées à la pratique spirituelle consciencieuse. La cérémonie d'ordination en tant que moine ou nonne est un événement solennel, et mémorable, qui marque l'entrée de l'adepte dans un ordre qui date de 2500 ans. En Occident, l'ordination est en général le point culminant d'un parcours de plusieurs années de pratique en tant que laïc, bien que certains choisissent de foncer comme des purs sangs vers le monastère. N'oubliez pas, si vous souhaitez recevoir l'ordination, vous devez en faire la demande auprès d'un moine expérimenté, qui sera souvent, mais pas toujours, votre instructeur spirituel actuel. Puis vous recevrez les robes requises, vous vous raserez la tête, dans certaines traditions, vous garderez une mèche qui ne sera coupée que durant la cérémonie proprement dite, et vous mettrez de l'ordre dans votre vie. Au cours de la cérémonie, vous réciterez les vœux du refuge et vous recevrez le nombre approprié de préceptes en fonction du niveau de votre ordination et de la tradition que vous suivez. Par exemple, il y a 16 préceptes, y compris les trois refuges, dans la tradition zen. Écoutez la section « La réception des préceptes » plus haut dans ce chapitre. 36 vœux pour la nonne novice dans la tradition Vajrayana et 277 vœux pour le moine qui reçoit l'ordination complète dans la tradition Theravada, pour n'en citer que quelques-uns. Après avoir pris refuge et reçu les préceptes, vous porterez un nouveau nom qui, traduit en français, exprimera souvent un aspect du sentier bouddhique comme « amour pur »,« pur esprit de patience »,« détenteur de l'enseignement », etc. À ce moment-là, vous serez passé d'un monde à un autre, et votre vie de moine ou de nonne commencera. Si vous devenez moine ou nonne dans un monastère bouddhiste, vous le faites car vous souhaitez ardemment consacrer tout votre temps et toute votre énergie à la pratique, à l'enseignement et à la réalisation du dharma. Pour atteindre vos buts, vous vous levez tôt, jour après jour, et vous suivez une routine composée exclusivement des éléments suivants : méditation, psalmodie, rituel, études et travail. Vous n'avez qu'un contact limité avec le monde extérieur. En général, les monastères sont plus ouverts aux pratiquants laïcs à certaines périodes de l'année qu'à d'autres. Mais la plupart du temps, vous dirigez votre attention vers l'intérieur de vous-même, sur des questions spirituelles. Pour une description détaillée de la vie dans un monastère Theravada occidental, écoutez le chapitre 8. Les monastères bouddhiques ressemblent à leurs équivalents chrétiens, à la fois par leur structure et par leur objectif. Certains moines bouddhistes occidentaux se sont même intéressés à la règle de Saint Benoît, le code officiel qui organise la vie monastique dans les monastères catholiques et anglicans depuis des siècles. Et Stéphane connaît un moine carmélite, catholique, et pratiquant zen, qui a déclaré un jour qu'il se sentait chez lui dans un monastère zen. Que leur objectif soit de vous rapprocher de Dieu ou de réaliser l'éveil, les monastères du monde entier ont donc bien un rôle remarquablement similaire à jouer. Il s'agit de lieux où les hommes et les femmes se consacrent de tout cœur à la vérité.
La robe bouddhique. La marque la plus distinctive peut-être du moine bouddhiste est son vêtement qui est traditionnellement drapé autour de l'épaule gauche. À l'époque du Bouddha, les moines le portaient au-dessus d'un long pagne traditionnel simple, sarong. Pas de luxe ici, mais pas non plus un détail sans la moindre signification dans un pays où les ascètes voyagent encore de nos jours complètement nus. Les moines étaient autorisés à posséder trois robes, qu'ils assemblaient souvent à partir de chiffons et qu'ils teignaient ensuite d'une seule couleur, en général le safran, jaune-orangé. Lorsque le bouddhisme suivit la route de la soie vers le Tibet et la Chine, la robe l'accompagna. Mais dans ces climats plus froids, les moines durent porter des couches de vêtements supplémentaires qu'ils adaptèrent à partir de styles traditionnels. Les couleurs des robes changèrent elles aussi, du safran en Inde au bordeaux tibétain et au marron foncé et au noir de la Chine et du Japon. Cependant, la pratique traditionnelle consistant à draper un morceau d'étoffe séparé au-dessus de l'épaule gauche, laissant ainsi le bras droit découvert, est restée en vigueur à travers la plupart des traditions bouddhiques. Dans certains pays, les moines remplacent le vêtement complet par une version plus petite qu'ils portent comme un tablier autour de la poitrine dans la vie quotidienne. Outre le fait que la robe soit pratique, dans certains pays elle sert aussi de couverture, tant pour s'en recouvrir et dormir que pour s'asseoir dessus, de capuche et de coupe-vent, elle possède une profonde signification spirituelle. Elle représente l'acte de renoncement au monde et elle marque le fait que celui ou celle qui la porte consacre sa vie au dharma. Certaines traditions considèrent la robe comme un objet de réflexion et même de vénération, comme le révèlent les vers zen suivants que leurs moines psalmodient le matin en revêtant leur robe. Vaste est la robe de la libération, un champ sans forme de bienfaisance. Je porte l'enseignement du Bouddha en sauvant tous les êtres sensibles. Les femmes dans le bouddhisme. Comme de nombreuses autres religions, orientales et occidentales, le bouddhisme a lui aussi traditionnellement échoué à donner aux femmes un statut égal à celui des hommes. Bien que le Bouddha ait explicitement traité hommes et femmes sur un pied d'égalité, qu'il ait clairement signifié que les femmes avaient le même potentiel d'éveil que les hommes, et bien qu'il ait fondé un ordre monastique de nonnes équivalent à l'ordre monastique des moines, ses adeptes n'ont pas toujours eu la même ouverture d'esprit à travers les siècles. Au contraire, ils ont plus ou moins mimé les attitudes de leurs cultures respectives dans lesquelles les femmes sont souvent considérées comme inférieures aux hommes et leur sont donc subordonnées. La pratique de l'ordination monastique complète, bhikkhuni en pali, des femmes, s'éteignit en Inde et au Sri Lanka il y a environ 1000 ans et ne fut jamais transmise en Asie du Sud-Est. Bien qu'elle ait survécu dans certains pays de tradition Mahayana, notamment la Chine, l'ordination complète doit encore être ranimée en Occident et en Asie de l'Ouest. Au contraire, dans la tradition Theravada, les femmes qui cherchent à devenir nonnes reçoivent 10 préceptes, de même que de nombreuses autres règles plus informelles. D'autres traditions bouddhiques, y compris le Zen et le Vajrayana, ont aussi leurs nonnes, mais elles aussi sont subordonnées aux moines. La vérité historique est là pour prouver que, malgré ce sexisme flagrant, certaines femmes sont devenues des yoginis et des maîtres accomplis. Au cours des récentes décennies, les femmes bouddhistes occidentales de toute tradition ont fortement critiqué ce sexisme institutionnel et exigé de leurs instructeurs et de la communauté qu'ils reconnaissent leur égalité complète. Le résultat a été l'émergence rapide de femmes qui sont des adeptes, des érudites et des instructrices très fortes. Dans la tradition zen, elles reçoivent en général en Occident la même ordination que les hommes, en tant que prêtresses zen. Et il semble y avoir aujourd'hui exactement le même nombre de femmes et d'hommes qui sont des lamas Vajrayana occidentaux. Il est donc clair que les bouddhistes occidentaux, tout comme leurs ancêtres orientaux, s'adaptent à la culture de leur époque.